Sur l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la notion de risque en startup et des choses qui sont sous-évaluées. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé vraiment du dirty grind du startup, puis j'ai le goût d'en parler rapidement aujourd'hui. Je trouve que c'est important comme sujet. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en démarrage, qui font moins de 100 000 $ par mois, qui écoutent mon podcast. Donc, je crois que c'est vraiment important que j'en parle, qu'on revienne sur ces notions-là. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, avant d'écouter ce podcast-là, s'il vous plaît, revenez en octobre 2020, le 5 octobre 2020, épisode numéro 34. Mon histoire, partie 1, 2, 3, super important parce que vous allez vraiment manquer de contexte sur l'épisode d'aujourd'hui où ça va être vraiment plus technique dans les faits et les épisodes de mon histoire, je raconte vraiment en détail des exemples avec FitAddict, avec ma première entreprise, avec mes struggles, comment, qu'est-ce que je vivais, pourquoi je pleurais, qu'est-ce qui m'arrivait, les problèmes, les ci, les ça. Donc si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment toucher à comment ça s'est passé pour moi au début dans mon startup. Allez écouter ça, s'il vous plaît, épisode numéro 34, 35, 36. Et avant que je commence, je suis allé souper cette semaine avec Jake, mon bon ami Jacob Hamel, qui était ici très souvent sur le podcast. On a fait des lives ensemble. Et Phil Massicotte, qui était aussi là pour l'épisode numéro 7 de gestion de stress, un des épisodes les plus importants de ce podcast-là. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, s'il vous plaît, allez l'écouter. Et on parlait éventuellement, pour moi, d'ouvrir un programme de mentorat. C'est quelque chose que je me suis fait beaucoup demander, que je me suis jamais vraiment assis me poser la question. Mais Jacob le fait, Phil le fait, puis les gars me disent toutes la même chose. C'est ce qui leur apporte le plus de bonheur en tant qu'entrepreneur. Donc, je vais me lancer probablement. Je n'ai pas encore lancé le tout. Je vais travailler juste avec des entreprises qui vendent des produits. Donc, je ne toucherai pas aux entreprises de services parce que je ne pense pas que je peux vous aider autant qu'une entreprise de produits où là, je connais tous les systèmes d'opération. On est passé à travers une multitude de défis. Et écoutez, là, j'ai des contacts dans absolument tout. Donc, des gens qui vendent des produits, je peux vraiment vous aider. Je ne crois pas travailler avec des personnes qui vendent moins de 25, 30 000 $ par mois. Encore là, les chiffres ne sont pas béton, mais je veux m'assurer que les personnes qui entrent dans le programme de mentorat, je peux très sérieusement vous aider, accélérer votre entreprise, couper vos costs, augmenter vos ventes, mettre des systèmes d'opération en place. Bref, il y a 1 million de choses qu'on peut faire ensemble si vous êtes une entreprise de produits et que vous avez déjà un certain chiffre d'affaires. Évidemment, là, ça ne sera pas cheap, tout ça. Je serais très surpris que ça soit en bas de 3 000 $ par mois. Donc, à suivre. Mais c'est quelque chose que je veux vous lancer. On en a parlé jeudi soir au restaurant, puis j'ai pas travaillé là-dessus encore. Je me suis pas assis pour vraiment mettre le tout en place. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un DM. Puis évidemment, vous serez les premiers à savoir. Je pense pas prendre non plus que 5 personnes. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous titille et que vous vendez au moins 25 000 $ de produits par mois, vous pouvez m'écrire, on peut en parler. Sinon, je peux vous mettre sur un waiting list. Si vous êtes pas loin à 10, 12 000, peut-être qu'un jour, vous serez à 25. Donc, on pourrait potentiellement vous mettre sur une liste. Donc, sans plus attendre, on se lance là-dedans. Les choses qui sont sous-évaluées en startup, let's go. Ce qui m'a inspiré cet épisode-là, c'est que je viens de faire un story Instagram sur Max, sur en fait la stupidité du bet de Max sur papier, à quel point ça faisait aucun sens. Max, qui avait une job qui faisait plus de 100 000 $ par année, 3 enfants en bas de 14 ans, une maison à payer, des comptes, une femme, évidemment, tout ça. On a commencé Believe, je pense que Max avait 41, avec 3 enfants et tout. Puis il a betté sur un kid qui criait haut et fort que l'industrie avait besoin de transparence puis qu'il avait un prêt de 25 000 de sa tante. Un condo à Blainville, puis une tête, puis un cœur plein d'idées, puis avec le feu aux fesses, bien sûr, avec une envie de réussir, puis déjà un bagage d'expérience dans l'industrie. Fait que sur papier, c'était vraiment pas un bon bet. Je vous conseille pas de faire ça, là, vraiment pas, de tout lâcher, puis si vous avez de la sécurité, surtout si vous avez des enfants, de tout lâcher, puis aller bêter sur quelqu'un que vous connaissez pas, premièrement, ça c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Mais de tout lâcher pour vous lancer en affaires, c'est stupide, j'en ai parlé maintes et maintes fois sur mon podcast. Ne faites pas ça. Écoutez, ça l'a payé pour Max, mais honnêtement, c'était vraiment, vraiment pas un bon bet sur papier. Tout ça pour dire que il y a beaucoup de risques au début. Ça fait partie de la game. Mais vous allez risquer énormément de choses. Vous allez risquer beaucoup de temps, surtout du temps, et vous allez risquer un peu d'argent, tout dépendant dans quel type d'entreprise vous êtes. Vous allez soit risquer beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ou un certain mix des deux. Mais il y a des choses qui sont très, très sous-évaluées en startup, et on va en parler aujourd'hui, qui sont sous-estimées en fait. La première, l'effort que ça va prendre pour la prospection et trouver des clients. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement sous-évalué, ça, à quel point ça va être difficile. Et souvent, on a un produit entre les mains, on travaille là-dessus, ça fait un an et demi, on est super excité, on en parle à des personnes proches de nous. Puis ces personnes-là nous disent que « ben oui, moi j'achèterais ça, ça fait du sens ». Écoutez, la réalité de la chose, là, c'est quand vous vous lancez pour vrai, là, Vous ne pouvez pas faire vivre une business avec 5 ou 6 clients. Surtout si vous êtes dans une business de produits, ça prend des clients at scale. Et j'en ai déjà parlé sur un autre épisode. Un startup devrait traiter chaque client comme un roi. Vous devriez encore les traiter comme des rois quand vous en avez 25 000 des clients, mais surtout au début. Et assurez-vous d'avoir des feedbacks de chacun de ces clients-là. Mais allez-y un client à la fois, puis grindez, let's go. À chaque fois qu'il y a un nouveau client, demandez-lui une référence pour un nouveau client, que vous soyez en produit ou en service. Bien sûr, j'en ai parlé ce maintes et maintes fois, c'est super important, mais c'est très, très sous-évalué comment ça va être difficile de trouver des clients. Et donc, une chose que vous pouvez faire pour remédier à ça tout de suite, surtout si vous savez que le processus de lancement va être long, surtout dans les entreprises de produits où votre développement peut prendre un an, presque deux ans. Je sais que pour moi, Believe, ça a pris pas loin d'un an, le temps que je me trouve un nouveau fournisseur, et si et ça, les étiquettes, le branding. J'ai commencé à travailler sur Believe en septembre 2015, si je ne m'abuse, et on a lancé en octobre 2016, donc ça a pris un certain moment. Et bien sûr, je suis dans une industrie qui est régularisée par Santé Canada, donc par le gouvernement, il faut passer par des certifications et tout. Donc, si vous pouvez faire une chose en ce moment pour remédier à ça, si vous êtes en train de travailler sur un produit, qu'est-ce qui est important de faire, c'est de tout de suite bâtir votre communauté, c'est extrêmement important. J'étais sur un appel aujourd'hui avec PH Quentin, puis je lui disais justement, pour ne pas le nommer, je lui disais, PH, mon plus grand regret, là, c'est de ne pas avoir documenté assez mon startup. Et moi, j'avais l'audience pour le faire. Je faisais mes lives. J'aurais pu faire des vlogs. Je le faisais pas par ego. Je le faisais pas par... Je voulais pas montrer au monde que c'était petit puis que je faisais ça de mon condo puis que, tu sais, on vendait pas en fou, là, évidemment. Notre premier mois de décembre, je pense qu'on avait vendu 12 000 $, là, tu sais. Fait que c'était vraiment pas capoté, là. On s'est pas donné des PlayStation 5 à Noël, ça, je vous le dis. Et ça a été mon plus grand regret. Mais c'est normal, au début, je veux dire... Quand je dis c'est normal, ça reste quand même quelque chose que je regrette. À la limite, j'aurais pu avoir plus de photos puis de vidéos dans mon téléphone, là, pas nécessairement besoin de le faire publiquement. Mais c'est super important que vous bâtissiez tout de suite votre communauté. Partez un podcast, un blog, un Instagram, n'importe quoi à propos de votre entreprise. Documentez le processus de création, c'est super important. Quand je vous dis un podcast, des vidéos, là, faites qu'est-ce qui fit le plus avec vous. Pour moi, qu'est-ce qui fonctionne bien? Les podcasts puis les vidéos. Pour moi, ça, c'est magnifique. Instagram, les photos, c'est moins mon truc. Écrire aussi, c'est moins mon truc. Donc, je le fais. Instagram, je le fais un petit peu, mais pas super. Un blog, évidemment, j'en ai pas. Mais podcast, vidéo, pour moi, ça me résonne beaucoup tout ça. Il y en a qui écrivent super bien. Faites-le à votre façon, c'est pas important. Mais s'il vous plaît, commencez tout de suite à partager avec votre communauté, aussi petite qu'elle soit, même si vous avez juste 150 personnes qui vous suivent. À travers ces 150 personnes-là, il y a peut-être 20 clients potentiels qui vont avoir suivi votre tracking, vos posts, durant un an et demi, puis qui vont être vos premiers acheteurs. Puis ces personnes-là ont peut-être des cousins, des amis, des membres de la famille qui vont aussi acheter des produits. Donc, quand vous êtes en startup, essayez pas de penser que vous allez vendre 100 000, puis 200 000, puis 300 000 par mois tout de suite. Allez-y un client à la fois. Puis si vous avez cette mentalité-là, vous pouvez tout de suite déjà bâtir une communauté, puis fueler tout ça avec 150 followers, 250 followers sur Instagram, peu importe ce que vous avez, peu importe le médium, vous êtes capable tout de suite de travailler sur cette communauté-là. C'est super, super important. Parce que ceux qui réussissent bien en affaires, c'est simple. Ils ont la communauté ou encore ils ont un brevet sur quelque chose ou ils ont le monopole sur une industrie. Pensons Hydro-Québec, par exemple. Mais tous ceux qui contrôlent la communauté contrôlent aussi l'industrie. C'est comme ça que ça fonctionne, guys. Donc, pensez tout de suite en communauté, aussi petite qu'elle soit, elle est extrêmement importante. Ça va être vos premiers clients. Deuxième chose qui est extrêmement sous-estimée, c'est les sacrifices que ça va prendre dans votre vie personnelle. Parce qu'il n'y en a pas de work-life balance au début. Si tu veux que ça marche, il faut que tu mettes tous les efforts. Il faut que tu mettes 100% de ton temps, il faut que tu mettes 100% de ton budget excédentaire. Ça veut dire que tu ne vas pas en vacances au Mexique. Ça veut dire que tu ne vas pas clubber une fois par semaine. Ça veut dire que tu ne vas pas souper au restaurant. Tu ne vas pas au Grindr. Tu ne vas pas faire toutes ces choses-là de la vie. C'est super, super important d'investir tout ce que vous avez dans cette bébelle-là pour qu'elle parte. Écoutez, la première année de Believe, là, je suis sorti une fois au bar. Je me souviens, je suis sorti en décembre 2015. Je suis allé au General Sherman avec un de mes meilleurs chums d'enfance, Kane. J'ai dit, tabarouette, c'est le fun de sortir, je m'en souvenais plus. Tellement ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans un bar. Puis là, trompez-vous pas, là, j'ai fait 10 ans dans l'industrie des bars. Du Jameson, j'aime ça. Là. J'aime les bars, j'aime les restos, j'en mange. Je suis pas allé pendant... Ben, en fait, je suis allé une fois ou deux dans un time frame de un an. Fait que pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment nouveau dans ma vie de faire ça. Mais j'étais dans mon mode sacrifice, j'étais dans mon mode, il faut absolument que je donne tout. J'ai un prêt de 25 000 de ma tante, ça tient sur pas grand-chose cette histoire de Believe-là. Fait que je fais des lives à tous les soirs. Je vais à Gatineau, deux fois par semaine au Gym Max faire des démos. Je descends à Québec, je vais faire des démos aussi. J'arrêtais pas, j'en faisais tout le temps, constamment, puis je gagnais l'industrie un client à la fois, un live à la fois, une minute à la fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous allez devoir faire des sacrifices. Oui, si vous avez une blonde, ça va être plus difficile. Si vous avez un chum, hein, évidemment, vice-versa, c'est la même chose. Ça va être plus difficile. Donc, préparez cette personne-là tout de suite à « Écoute, là, c'est mon rêve. Dans la prochaine année, je vais mettre 100% de mon temps, de mes efforts, de mon budget excédentaire, de mon fun money. Ça s'en va là-dedans parce que j'ai un shot et il faut que je donne tout. » Essayez pas de stretcher ça à faire des efforts à gauche, à droite parce que ça fonctionnera pas. Et ça, je l'ai dit sur un autre épisode, un des plus grands ennemis d'un startup, c'est la vie personnelle du fondateur-fondatrice ou des fondateurs-fondatrices. Écoutez, il n'y a pas d'autre ennemi que ça. C'est votre pire ennemi, c'est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi en tant que parent de ce bébé-là là, qui n'est même pas encore capable de manger lui-même. C'est super, super, super important que vous compreniez la notion de sacrifice et d'implication de vie personnelle. Et la troisième, c'est la difficulté à avoir du financement une fois que vous commencez. Donc, c'est hyper giga important, surtout dans les business de produits. C'est qu'il n'y en a pas d'histoire de financement avec la banque. Ils ne voudront rien savoir de vous et de vos deux, trois premiers états financiers. Donc, ça veut dire que 100% du financement de cette entreprise-là, si elle est en croissance, elle dépend de vous. Elle dépend de vos cartes de crédit personnel, des niaiseries que vous avez faites dans le passé, du monde que vous connaissez autour de vous qui peuvent potentiellement vous passer de l'argent. Ça veut dire que si votre business de produits, elle lance dans un an et demi, par exemple, si vous avez genre 12 à 18 mois, à 24 mois devant vous, assurez-vous de vous bâtir un crédit personnel de feu, c'est extrêmement important. Écoutez, ça n'a aucun bon sens à quel point c'est important parce que c'est la seule chose dont la banque care. Et ça, encore une fois, c'était une bonne question de mon ami PH Quentin sur Instagram la dernière fois que j'ai fait un story pour vous demander qu'est-ce que vous voudriez voir sur le podcast. Et PH m'avait demandé comment te dealer au début avec les finances de Believe. Eh bien, il y a juste une façon. Non, en fait, il y a deux façons de dealer avec les finances au début. La première, comme je le dis, votre crédit personnel, s'il vous plaît, ça se prépare des mois en avance. Ça. Souvent, entre 6 et 9 mois, vous allez être capable de virer votre crédit personnel sur un 10. Donc, c'est super important que vous pensez tout de suite à comment vous gérez vos cartes et vos accordés ou vos prêts personnels que vous avez. Peu importe c'est quoi, ne manquez pas de paiement puis assurez-vous que votre carte personnelle soit en bas de 50% de sa capacité, que vous la payez constamment. Extrêmement important. La deuxième chose qui est très importante, c'est de vous trouver des fournisseurs et des partenaires d'affaires qui vont être en mesure de vous aider rapidement, qui croient en vous. Donc, si vous appliquez dans une... Si vous avez une business de produits surtout, là, ou encore si vous êtes dans une entreprise de services, vous avez quand même besoin de produits souvent pour livrer vos services. Dans tous les cas, par exemple, si vous êtes une entreprise de services ménagers, vous avez quand même besoin d'acheter des produits ménagers. Donc, vous pouvez prendre le même angle puis penser de la même façon, là. Mais si vous êtes dans une entreprise de produits, c'est extrêmement important que vous trouviez des partenaires d'affaires, donc des fournisseurs, en premier lieu, qui veulent vous aider, qui croient en vous. Et assurez-vous de parler à une personne qui a du pouvoir, qui va pouvoir éventuellement vous donner des conditions de paiement en 30 jours ou en 60 jours éventuellement. C'est super important. Peut-être même vous allonger des marges de crédit, des choses comme ça. Parce que moi, j'ai eu des partenaires au début qui m'ont aidé et qu'aujourd'hui, je remercie. Que je continue moi-même d'aider à ma façon du mieux que je peux. Mais c'est super important. J'ai des personnes que j'ai croisées dans ma vie qui m'ont énormément aidé dans ce monde-là parce que j'avais des bonnes relations avec eux. Et bien sûr, je prenais soin de ces relations-là. C'est super, super important. Tu sais, souvent, une entreprise, on entend les mots client, ça prend plus de clients, ça prend plus de ci. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça prend beaucoup de support à l'arrière. Une équipe de hockey pour qu'elle gagne, là, c'est beau faire 7-8 buts dans une game, mais si tu t'en fais scorer 10, tu perds quand même. Donc, c'est super important qu'on joue dans les deux sens. On joue à la défense et on joue à l'offense. C'est super, super important. Donc, trouvez-vous des fournisseurs qui veulent vous aider. PH Quentin, je répète son nom pour une troisième fois pour ne pas le nommer. C'est un client chez Believe Lab. On l'aide à notre façon, on l'aide beaucoup en fait, parce que moi je suis passé par là, puis j'ai les finances pour pouvoir l'aider, ça me fait plus que plaisir. Il a un beau produit, puis vraiment il croit en sa mission, puis c'est un bel ambassadeur de sa marque, donc let's go, je l'encourage. Puis d'ailleurs, si vous cherchez des bons carbs, puis des électrolytes, si vous tripez sur la course, les sports d'endurance, ces choses-là, son produit est magnifique, le Upica Endurance, allez sur son site, allez sur sa page Instagram, vous allez tout voir ça. Mais donc de trouver des fournisseurs qui veulent vous aider, c'est extrêmement, extrêmement important. Puis surtout aussi trouver un modèle d'affaires qui va permettre que votre argent rentre avant que vous devez payer le produit. Ça veut dire que vous êtes capable de vendre le produit une fois au moins avant de le payer à votre fournisseur. Ça, c'est le meilleur cycle. Bon, c'est sûr qu'il y a des cycles plus profitables comme le vendre trois fois avant de le payer, là. Mais je veux dire, le cycle de base pour que votre entreprise, ça c'est entreprise avec 4 S, là. Je suis désolé. Mais pour que votre entreprise puisse commencer à battre de ses ailes elle-même. C'est super important que votre cycle de cash flow soit positif constamment. Ça veut dire que vous êtes capable de vendre le produit au minimum une fois avant que vous devez le payer à votre fournisseur. Ça veut dire que le meilleur funnel que vous pouvez avoir, c'est avoir un fournisseur qui vous aide avec des termes de paiement de 30 à 60 jours et que vous avez des clients qui vous payent directement prepaid, donc eux n'ont pas de termes de paiement. Donc ça, c'est la meilleure façon de au moins s'assurer d'avoir un démarrage de qualité et une entreprise qui peut supporter elle-même en partie sa croissance. C'est super, super important. Donc, je veux conclure ce podcast-là sur une chose. La notion de risque en entrepreneuriat, il faut la comprendre. La work-life balance n'existe pas. Donc, je suis désolé si vous avez entendu mon chat, il vient me coller, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Mais elle n'existe pas au début. C'est super, super important, guys. Okay? Elle n'est pas présente. Et s'il vous plaît, allez écouter les deux épisodes suivants si ce n'est pas déjà fait. La gestion du stress avec Phil Mascott, épisode numéro 7. Et aussi, mon histoire 1, 2, 3, ça part à l'épisode 34, le 5 octobre 2020. Et pour ceux qui aiment le podcast, qui partagent sur Instagram, je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup de partager, de faire grandir le podcast avec moi. Je le fais par amour de partage et je vais continuer de le faire. Pour vrai, ça me fait du bien de faire le podcast. J'aime vraiment ça. Et ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire écrit 5 étoiles sur l'application Balados, écoutez, ça prend 17 secondes de votre temps. Là. Si vous aimez le podcast, allez le faire, s'il vous plaît. Vous avez juste à descendre jusqu'à l'épisode 1, mettre 5 étoiles, un beau commentaire écrit. Ça me rend fier service. Ça aide le podcast à grandir. Et si vous écoutez sur Spotify, il y a aussi façon de mettre 5%. Abonnez-vous, bien sûr. Et juste en bas de l'image de mon podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles. Donc, merci à tous. Je vous aime. Je dois aller me préparer. J'ai un mariage dans 2 heures. Donc, je suis un peu à la course. Guys, lâchez pas. Work-life balance au début n'existe pas, mais elle va venir un jour. Lâchez pas. Je vous aime. We are the warriors who learn to love the pain. We come from different places, but have the same name. Cause we were born for this. We were born for this. We are the broken ones who chose to spark a flame. Watch as our fire rages, our hearts are never tame. Cause we were born for this. We were born for this.